Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de C'est quoi ta spécialité? Cette semaine, on a eu la chance de rencontrer une ORL, Dr Mijovic.
Ouais, puis pour vrai, je pense que c'est un de nos top épisodes en termes de réflexion sur notre choix de carrière, là. Elle, on voit qu'elle a vraiment eu ce processus-là de réfléchir à son choix de spécialité, puis de comment elle a réussi à matcher son type de personnalité, ses caractéristiques personnelles à sa spécialité. Donc, c'est vraiment un épisode parfait pour ça. Donc, bonne écoute!
Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise.
Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecin. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement.
Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine.
Merci beaucoup, Dr Mijovic, d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait grand plaisir. C'est une super bonne initiative. Je pense qu'on espère tous avoir eu ça quand on était plus en médecine, plus jeune aussi.
Ça va, mais on espère que ça peut en aider quelques-uns.
J'en doute pas. Oui.
Donc, nous, souvent, on aime ça repartir du début. Au début, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez toujours su vouloir devenir un médecin?
Du tout.
Zéro.
Du tout. Moi, j'ai été en sciences, lettres et arts. Au cégep parce que je ne savais pas du tout en quoi j'allais m'en aller. Fait que j'ai fait des sciences, j'ai fait justement de l'art, j'ai des sciences humaines, j'aurais pu aller en droit tout autant qu'en médecine. Puis c'est pour ça que j'ai pris le triple deck. Puis là, je me suis rendu compte que les sciences, j'aimais plus. Puis là, j'étais beaucoup en indécision entre l'ingénierie puis la médecine, puis en rencontrant des gens en médecine qui font beaucoup d'affaires technologiques. Donc, en médecine, il y en a beaucoup, des lasers, de l'électricité, en ORL, on a des implants cochléaires. Donc, je me dis, écoute, je pourrais avoir les deux d'une certaine façon en devenant médecin.
Ouais, c'est bon. Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, que ça peut amener ce côté technologique-là.
Exact. Donc, ça, je me suis dit, c'est tellement vaste que c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, je vais trouver quelque chose qui m'intéresse.
Puis, êtes-vous rentrée directement après le cégep?
Oui. Moi, okay. Je suis rentrée en pré-med là, à 17 ans. Donc, on ne connaît pas grand-chose. On est comme dans la vague des gens qui ont un moins d'expérience de vécu, mais beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est ça. Ouais. Donc, moi, je suis rentrée en pré-med. Puis, j'ai décidé d'être ORL en deuxième année de médecine.
Qu'est-ce qui vous a fait cette piqûre-là?
Le TCP, en fait. Là. Mm-hmm. Moi, en rentrant en médecine, je me suis dit, mais j'aime beaucoup aussi tout connaître. J'avais adoré les blocs sur pneumo, cardio, etc. Je me voyais Dr. House qui va tout comprendre les affaires parce que j'étais très... je voulais absolument savoir tout. Puis là, en faisant mon premier TCP, j'étais en médecine interne. Mm-hmm. Puis, j'avais pas du tout aimé ça. J'étais vraiment en indécision. Est-ce que c'est fait pour moi? Blablabla. Puis, la chose suivante, j'ai fait la chirurgie. Puis, c'était comme une révélation.
Oh, ouais.
Puis, c'était dans l'idée de... je me rendais compte que ce que j'aimais, c'est de régler un problème. Puis, pas que la médecine interne ne règle pas de problèmes. J'en ai pas commencé des guerres. Mais j'avais l'impression que j'étais en maintenance, en train de jongler plein de balles sans... régler la chose. Alors qu'en chirurgie, le patient arrive avec un problème, on fait quelque chose, puis on l'a réglé. Donc, il y avait... moi, le débit me faisait du bien, fonctionnait avec la façon que moi, je pensais. Puis là, ça m'a comme réconcilié avec la chose. Puis, à travers toutes ces cliniques de chirurgie-là qu'on fait, j'ai fait de l'ORL. Puis ça, j'avais beaucoup aimé parce que c'était très... Quand vous allez dans le bloc tête et cou, c'est compliqué. Il y a tellement de choses différentes. Puis, justement, il y avait tellement de variétés, des patients... en santé, mais qu'ils avaient des problèmes qui les dérangeaient beaucoup. C'est ça que je trouvais particulièrement intéressant, c'est que ils n'ont pas une liste de qui descendent de A à Z. C'est des gens qui font beaucoup de choses. Justement, tu entends des chanteurs, des artistes, justement, si c'est des problèmes de la voix, des problèmes d'audition, des problèmes de sinus, etc. Quand on est rendu à s'occuper de ça, c'est que le reste de notre santé va super bien. Puis ils arrivaient, puis ils étaient très dérangés par ces choses-là. Donc, quand on arrive à régler ce problème-là, l'impact pour eux sur leur qualité de vie est énorme. Puis là, je voyais à tout le temps les gens qui arrivent avec un problème. Tu vois, ils ont une oreille bouchée avec de la cire, c'est tellement dérangeant. Mais on arrive, on règle le problème, puis ils sont contents en sortant. Donc, il y avait quelque chose dans le débit que je trouvais très intéressant.
La reconnaissance immédiate un peu.
Exact. Peut-être pas immédiate tout le temps, mais il y a quelque chose, il y a comme un plan d'action, puis une approche, comment on va régler le problème qui est très présent.
Puis le avant-après, chez quelqu'un qui est comme en santé ou qui est dans le pic de sa vie, là, tu sais, c'est...
Exact.
On dirait que c'est encore plus grand, des fois, la différence.
C'est ça, parce
pas
que...
Pas qu'on fait pas la différence pour des personnes.
Non, pas du tout, du tout. C'est, chacun est différent, mais de temps en temps, quand on n'a pas autant de problèmes que ça, on a comme pas autant la résilience de vivre avec autant. Puis à ce moment-là, je trouvais que l'impact était intéressant. Mais surtout des impacts d'un point de vue des enjeux qui sont importants dans la relation avec les gens. Donc, les gens qui sont sourds, écoutez, leur vie est changée énormément. Donc, d'être capable de les aider à regagner l'ouïe, c'est très fort comme sensation. Puis justement, des gens qui ont un problème de la voix, des professeurs qui perdent la voix, qui adorent leur travail, mais là, ça ne fonctionne pas, puis il y a des choses qu'on peut faire pour les aider. Donc, je trouvais qu'il y avait un débit. Puis l'équipe, tout passe toujours par les mentors qu'on a.
Ouais.
On rencontre des gens, puis on se dit, oh mon Dieu, ils font ça, c'est tellement intéressant. Puis ils t'en montrent plus. Donc, d'une certaine façon, moi, j'ai eu la chance d'avoir des mentors que je trouvais ça intéressant. Donc, tu poursuis un peu dans ce en quoi on t'encourage aussi. Donc,
c'est quand même contingenté comme spécialité. Est-ce que dès que vous avez pris la décision que c'est ça que vous allez faire, est-ce que vous avez pris des décisions, faire des choses en place pour pouvoir rentrer?
Oui. En fait, je pense qu'il y a une partie qu'on dit oui, c'est contingenté, puis il ne faut pas non plus dire si on n'a pas commencé en deuxième année, nos chances sont nulles, pas du tout. Moi, je fais les entrevues à chaque année, puis en fait, ce qu'on regarde, c'est quelqu'un qui est un bon fit. Donc, il faut avoir un intérêt, il faut avoir fait les stages pour justement que la personne puisse dire de façon claire que ça l'intéresse vraiment. La dernière chose qu'on veut dans un programme contingenté où tu en prends un à deux par année, c'est qu'il y en a un qui match, puis décide de changer d'avis en première année ou deuxième année, parce que là, nos équipes sont vraiment réduites. Fait que quelqu'un qui a été assez pour vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qu'ils ont envie de faire. Donc, il faut avoir eu quelques stages pour pouvoir prendre ce choix éclairé-là. Ça, je dirais une chose. Donc, on regarde les stages que les gens ont faits, puis on regarde en général quelqu'un qui a des bonnes notes. Peu importe, là, si t'es bon en quelque chose, tu vas pouvoir l'être en ORL. Puis d'avoir un peu d'habileté aussi manuel. Donc, souvent, les étudiants qui passent avec nous, on va leur faire suturer un peu, regarder, parce que en ORL, c'est très, très minutieux. Moi, mon travail est sous un microscope 95 % du temps. Donc, il faut avoir une dextérité bimanuelle, une capacité de justement jouer avec des choses micro, d'avoir une perception de la profondeur, une minutie. Donc, des affaires qui, malheureusement, se pratiquent, mais s'apprennent pas
c'est
vraiment.
C'est ça que je t'ai pour demander.
C'est ça.
C'est comme inné.
C'est ça. C'est pas inné, mais je pense que ça vient un peu avec la personnalité. Donc, il y a des choses que, disons, il y a des gens qui d'emblée sont peut-être plus nerveux ou ont des... ou ont tendance à avoir un petit tremor, là, un petit
tremblement,
c'est ça. Fait que, malheureusement, quand on fait du micro, ça peut se travailler, mais tu commences avec comme un déficit comparé à quelqu'un qui n'a pas ça pour commencer. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Puis le reste, mais c'est drôle parce qu'on peut tous avoir une motricité fine ou une motricité plus large, mais le fin, il faut avoir l'envie du détail, le souci. On compare un peu, disons même en dentisterie, ils vont dire celui qui fait de l'orthodontie est très, très, très minutieux comparé à celui qui fait de scie. C'est pas toutes les spécialités que c'est la même chose.
Puis que c'est les mêmes personnes qui vont nécessairement être bonnes.
Exact. Ouais. C'est ça qui est souvent que de temps en temps, justement, j'ai souvent des discussions avec nos étudiants. C'est-tu une bonne fit? Qu'est-ce que t'en penses? Puis je pense que le plus important, c'est de regarder, mais on est comment nous à la base? Moi, est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire? Est-ce que un souci à ce détail-là, est-ce que ça satisfait mon OCD, qu'on a tous un petit peu, ou est-ce que ça me dérange plus que d'autres choses? Puis, c'est de réaliser c'est quoi le feeling qu'on a quand on fait ces choses-là. Donc, moi, je compare souvent avec, disons, un chirurgien de trauma. On est tous chirurgiens, on est tous capables d'ouvrir des gens, on a une bonne tolérance au sang, etc. Ça ne nous dérange pas, mais... moi, pour que je sois une bonne otologiste, il faut que j'ai un souci du détail absolu. La prothèse, l'osselet articulaire que je mets, s'il est à quelques degrés trop croche, mais il va finir par tomber si la personne a à court pour faire de l'activité physique. Donc, je vais m'essayer, puis je vais essayer de le tenir à la chose parfaite, puis je vais essayer 15 fois avant de... Donc, puis j'aime ça, faire ça. J'ai des résidents ou des étudiants qui regardent, puis ils sont en train de s'arracher les cheveux en disant ben, c'est combien de fois là, avant de.
Oh, ouais, faut pas avoir une tendance à abandonner avant que ce soit parfait.
Mais si moi, je devenais une chirurgienne de trauma, puis là, j'ai envie que mon incision soit parfaite alors que la personne est en train de s'exsanguiner, ben, je vais être vraiment poche comme chirurgienne de trauma parce que je vais focusser, je vais vouloir que les choses soient parfaites ou je vais le faire comme il faut, je vais le faire très rapidement pour aboutir au résultat final, mais je vais me sentir comme si je fais quelque chose de brouillon. Donc, il faut écouter un peu, c'est quoi notre personnalité à nous, puis qu'est-ce qui nous fait du bien.
Puis un fit pour tout le monde un peu, fait vraiment exact. Pas avoir peur d'aller vers ce qui nous
d'explorer
représente.
D'explorer là-dedans, puis je me dis, j'ai un bon ami qui, lui, il a découvert que la dermato, c'était pour lui en 4e année de médecine, mais c'est correct.
Ça a fonctionné.
Ça a fonctionné, okay. Parce que c'est un bon fit. Fait que il faut travailler fort tout le long de ta médecine, c'est-à-dire toutes les rotations sont importantes, même si c'est quelque chose qu'on fait, parce que, disons, d'avoir des notes poches dans des choses que peut-être qui nous intéressent moins, c'est juste un reflet de l'effort qu'on met. Donc, si on met de l'effort dans tout ce qu'on fait, puis on fait du mieux qu'on peut, chaque rotation, on dit, c'est peut-être ça que je vais faire, puis give it a shot, puis c'est comme 4 semaines. 4 semaines, on fait de notre mieux. Puis si on se rend compte que ce n'est pas un fit pour nous, mais c'est pas grave, on va y move on. Mais il y a tellement de variétés qu'il va y avoir quelque chose qui va être un bon fit.
Ouais. Puis même si ce n'est pas un bon fit, ça peut ressortir quelque chose de la c'est rotation.
Sûr. C'est sûr. Puis ça fait de nous un meilleur médecin plus tard. Parce qu'on va identifier des choses, savoir des affaires, etc.
Ouais, plus complet un peu.
Exact.
Puis sinon, si on retourne, c'était comment la résidence? On dit souvent que les résidences en chirurgie sont peuvent être quelque chose.
En ORL, on n'était pas beaucoup. C'est ça le problème, c'est qu'on était, moi c'était dans le temps qu'on était dans l'ancien Royal Victoria Général, etc. Donc on avait beaucoup de gardes, puis surtout les juniors. La différence entre une résidence en ORL versus une résidence en chirurgie, c'est qu'en ORL, c'est très intense au début de notre résidence. R1, R2, R3, c'est là qu'on va faire surtout beaucoup de gardes. Puis c'est ça qui est difficile. Ça veut dire que s'il y a une urgence la nuit, mais c'est le R1, R2, R3 qui va se déplacer, drainer l'abcès, etc. Puis en ORL, c'est parce que les urgences ORL de nuit sont des urgences qu'on considère de junior. C'est-à-dire que ce n'est pas des grosses chirurgies majeures, des choses comme ça. C'est des choses qu'on apprend dans notre première, deuxième année, puis après, on est capable d'aller s'en occuper tout seul. Fait que c'est pour ça qu'on se fait réveiller. Une fois aux quatre jours, on fait un 24 heures, on se fait réveiller pour des choses.
Une fois aux 4 jours.
Okay. Oui. Mais il va y avoir des nuits que ça va être correct. Mais on apprend à dormir avec notre pagette. Puis, c'est plus tard, plus on devient un senior, plus l'apprentissage de ce qu'on est en train d'apprendre à faire, c'est des choses qui se passent le jour, c'est-à-dire en chirurgie, planifiée avec les patrons qui font de ça. Donc, c'est-à-dire on dort la nuit pour être en forme pour notre journée le lendemain. C'est un peu la façon en ORL comment ça se passe, qui est un peu différent de la chirurgie, disons, en général, où le senior, il travaille très, très fort parce que les urgences, ils apprennent à faire les chirurgies urgentes la nuit, puis ça, c'est des choses qui arrivent plus tard. Donc, c'est un peu différent. Donc, nous, après le R3, ça s'améliore beaucoup.
Puis, comme pour vous pratiquer à faire les chirurgies, tu sais, j'ai l'impression que quand c'est des gros trucs macro, c'est facile de pouvoir en faire une petite partie ou dans les grosses chirurgies versus quelque chose de vraiment microscopique, de pouvoir se pratiquer.
C'est sûr. C'est pour ça qu'on a un laboratoire de ça. Donc, on a un laboratoire d'os temporal. Donc, comme vous avez eu dans vos cours de médecine les cadavres à McGill, bien, ça, c'est la beauté du programme à McGill, c'est qu'on a un grand accès à des dons de cadavres, de gens qui ont donné leur corps à l'éducation. Donc, une fois qu'en novembre, vous avez fini le bloc tête et cou, bien, nous, en ORL, on va chercher toutes les têtes. Puis, on les garde dans notre laboratoire. Puis, nos résidents, bien, on a un setup dans le Strat Corner qui a des microscopes, les drills, les mêmes choses qu'on a en chirurgie. Puis, les résidents commencent à se pratiquer là. Donc, c'est un apprentissage d'anatomie. Puis, après, de pratiquer à trouver les les différents landmarks, de pratiquer à mettre des différents types d'osselets, etc., sur le cadavre. Puis ensuite, on fait ça en chirurgie une fois qu'ils en ont fait assez. Puis tous nos microscopes, c'est des microscopes de supervision, c'est-à-dire il y a une autre personne qui regarde, tu vas pratiquer cette étape, etc. Donc ça se construit petit à petit.
Moi, j'ai une question qui était peut-être un peu bizarre, mais c'est comment opérer puis voir souvent le visage du patient? Parce que la plupart des opérations, tu sais, on voit pas le visage à cause du drap. Puis c'est comment ça fait-il une différence?
En ORL, on couvre toute à part la partie qu'on opère. Donc, tout est stérile. Dans une oreille, on va la badigeonner avec l'iode, donc c'est tout orange. Puis après, on met des choses, puis je vois juste une oreille.
Okay.
Mais c'est sûr que nos patients, c'est des gens qui nous font confiance. Puis c'est pas, on n'arrive pas un jour, puis c'est là qu'on les a rencontrés. On les a vus une première fois, on les a vus une deuxième fois pour organiser des tests, discuter des résultats. On a discuté de l'opération comme une option. On s'est revus, on a répondu à leurs questions. Donc, c'est des gens qui nous font confiance. Donc, c'est sûr que ça... On prend ça au sérieux. Mais honnêtement, j'y pense pas vraiment du visage comme tel. Je sais c'est qui la personne en dessous. Ça devient... C'est différent d'un cadavre quand on fait les dissections parce que cette personne-là, on l'a pas connue. La personne endormie, on la connaît, on l'a vue déjà beaucoup de fois.
Puis à partir de quelle année à peu près vous faites des opérations sur des vraies personnes?
Dès la première année, mais différentes étapes.
Okay.
Donc, peut-être pratiquer de faire une incision, mais généralement, ou de fermer une plaie. Mais en première année, ça c'est des choses qui se font. Mm-hmm. Puis plus les choses évoluent, plus on bâtit sur les différentes étapes. Le microscopique va arriver un petit peu plus tard, plutôt que l'ouvert, mais en ORL, on a quand même pas mal de chirurgie ouverte aussi. Donc, au niveau du cou, au niveau des... Il y a de l'esthétique, tête et visage qui est inclus en ORL, donc c'est très vaste.
Mm. Moi, j'ai souvent entendu comme commentaire si t'aimes beaucoup le côté médicinal et chirurgical, que l'ORL, c'est un bon pathway, je pourrais dire, pour ça.
C'est sûr.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même beaucoup de médical dans tout ça?
Parce que l'ORL est basé sur des organes précis. Donc, disons que ce qui est la différence qu'ailleurs, disons, si vous aimez l'abdominal, bien, vous pouvez être un chirurgien général, faire les aspects chirurgicaux ou être un gastro-entérologue puis faire l'aspect médical. Mmh. Alors qu'en ORL, bien, c'est la même personne qui fait les deux. Donc, tu es un spécialiste des sinus, il y a beaucoup de problèmes de sinus qui sont reliés à des allergies, à des problèmes immunitaires, des choses comme ça. Puis, il y a une partie de ces gens-là qui ont besoin d'une opération. Puis, à l'intérieur de la sphère ORL en soi, donc des ORL généraux, on peut avoir des gens qui vont être plus chirurgicaux que d'autres. Puis, ça fait en sorte que les ORL pratiquent longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont chirurgicaux en début de carrière, font beaucoup, puis après, s'ils ont envie de ralentir, bien, ils peuvent sortir des hôpitaux. Ils n'ont plus besoin de salle d'op ou quoi que ce soit, puis ils font du bureau, puis ils font du médicinal.
Mmh.
Parce qu'un ORL a besoin de voir, dépendamment de son une équipe qui lui réfère des patients, si c'est un ORL de communauté qui reçoit des références des médecins de famille, il voit environ 13 patients avant d'en céduler un pour une opération. C'est à peu près ça le ratio. Puis plus un ORL se sous-spécialise, plus il reçoit des références de d'autres ORL, plus ce taux-là diminue. Donc moi, je suis en salle d'opération 2 à 3 jours semaine. Donc dans mes cliniques, la plupart des journées, je vais voir soit des gens qui attendent pour une opération ou qui sont post-op, puis je garde toujours un petit espace pour des choses qui ne sont pas chirurgicales pour garder la main, mais c'est sûr que j'en vois beaucoup moins que quelqu'un dans une autre, dans une autre branche.
Puis c'est ça, on peut en parler un peu de votre sous-spécialité. C'est plus en, justement, l'oreille.
L'oreille. Je ne fais que ça. Donc, mon monde, c'est l'otologie, la neuro-otologie. Donc, de l'oreille, pas l'externe comme tel d'un point de vue. Si quelqu'un a un cancer de peau sur l'oreille, mais ça va être mon collègue qui fait de l'oncologie. Si quelqu'un n'aime pas la forme de son oreille puis veut se replacer l'oreille en arrière, mais ça va être mon collègue qui fait de l'ORL plastie. Moi, c'est l'oreille fonctionnelle. Donc, l'auditif. Donc, ça commence avec le conduit auditif vers le tympan, les osselets, l'oreille interne, les nerfs pour se rendre jusqu'à la base du crâne. Donc, c'est un otologiste neuro-otologiste parce que c'est la jonction entre ORL et neurochirurgie. Donc, ça, c'est un fellow de 1 à 2 ans après l'ORL.
Vous l'avez fait où,
Moi, j'ai fait à Vancouver, en Colombie-Britannique. Puis, j'ai fait 1 an parce que le Glen ouvrait puis on avait absolument besoin de quelqu'un qui revienne. Donc, je suis revenue.
Il y avait un gros besoin.
Oui, c'est sûr. On avait plusieurs ORL plus âgés qui n'avaient pas l'intention de... de continuer. Donc, ils voulaient prendre leur retraite. Donc, il y avait un besoin. Donc, c'est sûr, j'aurais fait 2-3 ans de fellow pour ma sous-spécialité dans plein de petites affaires en ORL, mais on l'apprend par la suite, puis ça fait 7 ans, puis ça va bien.
Mm. Puis, c'est comment votre balance maintenant que vous êtes patron, on peut dire, vie, recherche, travail?
Il n'y a jamais assez d'heures dans une journée. Là, mais l'ORL en soi, on dit souvent, est-ce que l'équilibre vie personnelle est relié à une spécialité? Zéro. C'est relié 100% à la personnalité de la personne. Donc, on peut être un médecin de famille qui travaille 9 jours semaine, puis on peut être un ORL qui travaille 3 jours semaine. Ça se fait très bien. Donc, on met ses propres limites, là. Moi, c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris de retraite, puis je suis revenue tout seul. Fait que j'ai très hâte. En juillet, on va avoir une autre otologiste, neuro-otologiste qui va arriver parce que à un moment donné, quand il y a des patients à voir, de dire « Écoute, moi, je vais prendre une demi-journée pour faire de la recherche », j'ai plus de difficultés parce que c'est des gens qui attendent puis on regarde notre liste d'attente. Donc, c'est sûr que côté recherche, j'en fais pas autant que j'aimerais parce qu'on n'est juste pas assez. Moi, je me suis rendu compte en début de pratique. Quand on commence, on voit des patients parce qu'on n'a pas encore de salle d'op. Il faut avoir une liste d'attente. Puis si on voit des patients du lundi au vendredi, puis un ORL voit environ 30 patients par jour, ça fait 150 patients à la fin d'une semaine. Puis moi, j'ai plus d'énergie après 150 patients. C'est-à-dire, c'est 150 personnes à qui on a dit bonjour, on a écouté leurs problèmes, on a essayé de le régler, puis on move on. Donc, moi, je me suis rendu compte que quand j'atteins un 90-100 patients dans une semaine, j'ai comme « empty my bucket ». J'ai plus autant de patience, puis je me sens toujours mal pour le patient qui a un vertige qui se présente un vendredi après-midi parce que j'ai beaucoup moins d'écoute. Donc, moi, j'ai diminué la quantité de clinique que je fais pour rentrer dans quelque chose. Je peux donner le service que j'aime donner. Donc, je fais de la clinique 2 à 3 jours semaine au max. Donc, le reste, c'est soit de la salle d'opération, puis avec le temps, en ayant plus notre nom se fait connaître, plus les gens nous envoient. Donc, oui, là, je suis rendue à 2 à 3 jours semaine de salle d'op. Puis, c'est sûr qu'on aime une petite après-midi off de temps en temps, mais ça arrive pas. Donc, c'est à peu près ça, mais j'essaie très fort de... Les journées sont de 7 heures à 6 heures à peu près. Puis c'est très rare en tant qu'ORL patron qu'on se déplace soir, nuit, week-end, à moins qu'il y ait une urgence. Puis ça, c'est une vraie urgence, c'est-à-dire qu'on s'en va en salle d'opération, puis c'est stat. On a eu des urgences de... Ça peut être de toutes sortes de choses, pas juste d'oreilles qu'on couvre. Puis si on se déplace, mais c'est pas le fun pour le patient, mais c'est des moments où ça ne nous dérange pas parce que c'est généralement très... Il y a beaucoup d'action, il faut faire quelque chose. On a eu un autobus qui a déboulé pendant le temps des fêtes, puis personne n'était attaché, puis tout le monde s'est craqué la pomme d'Adam, puis que là, on avait des pommes d'Adam à remettre ensemble, puis des choses comme ça.
Oh wow.
Donc, c'est ésotérique, mais ça arrive. T'es comme, OK, mais c'est ça, il faut y aller. Donc, puis je dirais que d'un point de vue des chirurgies qu'il faut se déplacer, les faire soir et nuit pour un ORL juste de garde, c'est environ 5-6 fois par année. Ah, donc, c'est pas la norme.
Fait que je fais encore des fois un peu de ORL général, même si vous êtes spécialisé.
La façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des horaires de garde. En ORL, on fait une semaine de garde. Donc, on est la personne qui couvre les urgences cette semaine-là. Puis, on revise avec les résidents au courant de la semaine. Puis, ça change à chaque semaine. Donc, on est une équipe de 8 ou 9 ORL au CUSUM. Puis, chacun fait sa semaine. Puis, si ça peut attendre pour voir le spécialiste qui fait ça le lendemain, bien, ça va attendre. Si ça ne peut pas attendre, bien, on est tous formés en ORL général.
Ouais. Voilà. Êtes-vous un peu rouillé des fois quand ça fait longtemps, mettons, que c'est
mais
pas fait un
c'est
coup,
sûr que ça... Que, bien, on en fait tellement dans notre résidence, puis on essaie toujours, on en fait toujours un peu régulièrement. Moi, j'opère aussi dans un centre communautaire à l'hôpital de Verdun, puis là-bas, c'est un peu de tout. Fait que de temps en temps, il faut faire une trachéo, il faut faire ci, donc on garde la main. Mais c'est sûr que quand on finit notre résidence, on a tellement fait de choses que... Il y a des choses de base, on est tous capables de le faire. Wow. Tout ce qui est vraiment urgent, on garde la main là-dessus. Disons, moi, les sinus, j'en ai pas fait depuis 7 ans, mais il n'y a pas d'urgence de sinus que je vais avoir besoin de faire la nuit. Puis ouais. si vraiment il faut, ben, je vais aller réveiller le gars qui en fait parce qu'on ne va pas aller se pratiquer sur des gens qu'on n'a pas la main.
Puis là, je voyais, si je lisais un peu vos informations sur les pages Internet. Là. Puis vous aviez, genre, il est écrit que vous étiez comme dans quasiment tous les sites de McGill un peu. Là. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Puis, donc, on a tous des pratiques associées, c'est-à-dire que notre clinique ORL au Glen, il n'y en a pas au général, elle est, il y a des journées, donc les jeudis, c'est de l'onco, etc. Ça veut dire que moi, en tant qu'ORL qui ne fait pas ça, mais je ne suis pas là cette journée-là, okay. parce que c'est des journées multidisciplinaires, donc on se promène tous un peu. C'est sûr qu'on essaie de centrer. Donc, moi, je vois des patients au Glen, mais j'opère, si c'est quelque chose qui a besoin d'un neurochirurgien, bien, j'opère ça au Jewish. Si, si c'est des choses qui sont outpatient, plus simples, etc., j'opère ça à l'hôpital de Verdun. Puis, tous les ORL ont des pratiques, donc de clinique externe, des pratiques de salle d'op, puis des pratiques de bureau. Donc, c'est des pratiques qui sont en trois parties. Donc, puis ces choses-là peuvent être à des endroits différents.
C'est quoi la différence entre bureau et clinique externe?
Donc, clinique externe est à l'intérieur d'un hôpital. Donc, tu as généralement une infirmière, tu fais des petites procédures, tu vois les cas d'urgence qui arrivent de l'urgence de l'hôpital. Alors que le bureau, c'est là où c'est généralement à l'extérieur d'un hôpital. La plupart des ORL travaillent avec des audiologistes, donc des gens qui font des tests d'audition, et des audioprothésistes, des gens qui font des appareils auditifs. Puis on s'associe dans des cliniques. Puis là, ça, c'est là où il n'y a pas vraiment un gros brouhaha, il n'y a pas énormément d'action. Mm-hmm. On a ce qu'il faut pour faire des choses de base, c'est-à-dire d'examiner le patient, d'avoir des discussions. Donc, souvent, c'est là qu'on va prendre le temps d'avoir des... On ne va pas se faire déranger par l'urgence qui vient d'arriver ou le résident qui veut reviser quelque chose. Donc, le bureau, c'est... Ça, là, il n'y a pas vraiment de résident au bureau. On roule le patron tout seul. Puis c'est comme, il y en a qui disent qu'ils appellent ça la pratique privée, mais elle n'est pas privée parce qu'elle est RAMQ, couverte par la RAMQ. C'est juste externe à l'hôpital. Puis on a des collaborateurs différents de ceux qu'on a à l'hôpital.
Puis y a-t-il une pratique privée en ORL?
C'est-à-dire que des gens payent pour leurs soins. N'importe quel médecin peut se dissocier de la RAMQ puis voir des patients en privé. C'est pas la norme, mais il y a de l'esthétique en ORL. Donc oui, il y a des gens qui ont des bureaux 100% privés pour l'esthétique. Puis c'est de plus en plus le cas. D'un point de vue, dans le passé, les chirurgiens plastiques étaient ceux qui faisaient tout, là, d'un point de vue esthétique. Mais là, il y a comme des sous-spécialités. Puis en ORL, il y a une spécialité d'esthétique.
Et c'est comme donc, un fellowship que les gens font.
Exactement. Donc, ils font... souvent, ils vont dire, mais l'ORL, il connaît le nez inside and out. Là. S'il y a quelqu'un qui va te le rendre plus beau, ça va être l'ORL. Je me rends pas dans ces débats-là, mais c'est souvent à cet égard-là. Donc, c'est des gens qui sont allés chercher des formations. Donc, tout ce qui est Botox, facelift, augmentation du menton, féminisation du visage. Donc, c'est toute une spécialité en soi, en esthétique. ORL, puis c'est des gens qui, tantôt, font un peu d'hôpital pour faire d'autres choses, puis de l'esthétique, puis plus leur esthétique augmente, plus ils vont se dissocier puis être 100% privé. Mm-hmm.
Ça doit quand même être le fun, par contre, d'avoir ces trois atmosphères-là, le bureau, la clinique externe, puis la salle d'urgence, la salle d'opération. C'est vraiment des endroits, je pense, qui sont vraiment différents.
Les journées sont tout le temps différentes. C'est ça qui est le fun, puis moi-même, dans une journée, je vais de temps en temps bouger sur l'heure du dîner, à cause de disponibilité, disons, du bureau, disponibilité de la clinique, ou disons qu'on doit, quelqu'un doit couvrir la garde le jour aussi. Fait que s'il y a des consultations, on peut pas ne pas aller à la clinique externe. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'être là toute la journée. Fait qu'on peut faire une demi-journée, puis faire l'après-midi ailleurs. Puis initialement, je trouvais ça, il faut être à l'heure, puis c'est comme un peu stressant de finir pour être à l'heure à l'autre endroit. Mais de sortir, d'aller prendre ta petite marche, d'arriver ailleurs, c'est comme tu recommence fresh.
Ouais, un reset.
Oui, c'est ça. Puis ça te permet d'avoir de l'énergie pour l'après-midi. Donc, il y a un flow à avoir, mais les journées ne sont jamais les mêmes. C'est ça qui est le fun.
Puis vous nous disiez aussi, avant qu'on entre en onde, que vous allez au Nunavik prochainement. Fait donc, ça fait combien de temps que vous faites?
Moi, je suis allée en R2 pour la première fois. Puis depuis, j'ai pas vraiment arrêté, à part pour l'année que j'étais au fellow. Donc, c'est environ 2 à 3 fois par année. Donc, j'ai été beaucoup de fois. Donc, les populations inuites ont des problèmes chroniques d'oreilles pour plusieurs raisons. Notamment, il y a une partie qui fait en sorte qu'ils ont des infections, qui ont de la difficulté à se débarrasser, soit parce que l'environnement, il y a énormément de fumée, les enfants boivent le lait couché, donc ça fait plus d'otite. Puis aussi, il y a une partie génétique qui sont moins bons à se débarrasser du du pneumocoque. Strapnumo. Fait que là, ils ont des infections qui restent. Puis après, une perforation qui coule, qui ne guérit pas. Donc, la surdité qui s'installe. Donc, il y a énormément de soins à donner. Donc puis des opérations même. Donc, ça date depuis des décennies, littéralement. McGill a tout un historique d'aller dans le Grand Nord qui date depuis déjà 40 ans. Des équipes qui ont commencé. Puis tranquillement, le Grand Nord a des stations de nursing, puis des stations d'hôpitaux. Donc là, moi, je vais souvent à Pouvernitouk, qui est la station sur la côte de la baie du Thon. Puis, on a, avec le temps, avec les années, bien, on a tous les équipements qui ont été achetés. Donc, ça devient de plus en plus des semaines très, très productives. Donc, ce samedi, on va aller avec ma résidente, avec un anesthésiste, avec un inhalo. Ils ont des équipes d'infirmières déjà sur place. Puis, ils ont tous les instruments, même plus beaux que ce qu'on a ici, qui ont été achetés au courant des années. Exactement, parce qu'on les utilise trois fois par année. Puis, on va être capable de faire, disons, une vingtaine de cas. Donc, ça, c'est très, très bien parce que ces patients-là, s'ils veulent venir se faire opérer à Montréal, puis il y en a qu'on fait aussi quand ça ne peut pas attendre.
Quand c'est urgent.
C'est juste beaucoup plus compliqué. De un, c'est le transport. Tu n'es pas avec ta famille. Puis quand tu as une chirurgie d'oreille, tu ne peux pas reprendre l'avion pour 6 semaines. Ouf. Ça veut dire qu'il reste ici 1 mois et demi. À vivre dans un hôtel, c'est plus ou moins...
C'est pas facile.
C'est pas facile. C'est pas facile pour eux, pour aussi le mode de vie, etc. Donc, c'est beaucoup plus... On a des bien meilleurs résultats aussi à aller justement sur place, dans leur milieu, à établir un lien de confiance. Puis ça, c'est des... C'est bien agréable. Puis on fait aussi des semaines de consultation. On se promène de village en village. Donc on fait une clinique, puis là, on reprend l'avion, on va dans l'autre village, on fait une clinique. Puis comme ça, on est capable d'aller chercher justement d'identifier les gens qui vont avoir besoin d'une opération. Puis après, on revient, puis on les opère.
Donc, les médecins là-bas, ils savent quand le spécialiste va venir, puis ils essaient de comme tout booker les patients
exact,
à la même journée.
Exactement, exact. Donc, ils ont des... Puis, on n'est pas les seuls. Maintenant, il y a il y a l'ophtalmologie qui monte, il y a la gynéco, il y a toute des soins spécialisés qui vont monter pour diminuer le besoin de descendre puis amener l'accès aux soins. Mm-hmm. Donc, mais ils ont des médecins de famille qui sont stationnés là-bas aussi. Donc,
mais ça fait du sens d'envoyer des spécialistes. C'est ça, c'est comme super efficace.
C'est ça.
Des journées comme qui roulent.
Okay. Ils travaillent très fort, les équipes là-bas. Donc, ici, on souvent à 3h30, la salle d'op doit être finie, puis etc. Là-bas, on arrive... Puis si on est prêt à travailler, on va travailler de 7 heures le matin à 10 heures le soir.
Oh, wow.
On va, toute l'équipe, on va avec nos infirmières, etc., on va déjeuner, on va faire un cas, on va dîner, on va faire un cas, on va souper, on va faire un cas, puis on va dormir, puis on se retrouve le lendemain.
Donc,
puis
on fait ça. Partez samedi, vous allez bien dormir d'ici là.
Mais on dort très bien là-bas parce qu'il n'y a pas d'Internet, on n'a pas de réception téléphonique, c'est une belle pause.
C'est vraiment affilié avec McGill, donc vous n'avez pas besoin de prendre congé de votre travail pour y aller?
Les médecins sont des travailleurs autonomes, donc on prend congé quand on veut, en fait, là. Mais pas exactement quand on veut, mais techniquement, il n'y a pas de... Il faut juste que dans ton équipe, il y a quelqu'un d'autre qui soit disponible pour être de garde. Donc, chaque service a ses choses. Donc, c'est sûr que c'est pas McGill... Pour McGill, moi, je peux être en vacances dans le sud ou dans le Grand Nord, mais ça fait partie de quelque chose qu'en tant que département, qu'on a décidé qu'on va donner du temps.
En fait, toute l'équipe est d'accord avec ce fonctionnement-là, puis c'est bien installé.
C'est ça, exact. Ah.
C'est vraiment le fun.
Oui. Puis là, vous partez pour combien de temps?
C'est une semaine.
OK.
C'est ça. C'est plus difficile plus longtemps parce qu'aussi, de ne pas être là pour nos patients dans le sud. Puis aussi, qu'à un moment donné, c'est plus facile de retourner plusieurs fois des petits moments parce qu'à un moment donné, on les a vus, tous les patients qu'il y a à voir. Il y a plus de valeur de les revoir dans 3 mois que de rester là plus longtemps. Mm-hmm. Puis ça, donc, on est une équipe de... 5 ORL qui vont sur la baie du Thon, il y en a 2 sur la baie d'Ungava. Puis ensemble, on fait environ 12 semaines d'ORL dans le Grand Nord. Ça veut dire que c'est quand même une semaine par mois qu'il y a des soins spécialisés.
C'est quand même bon.
Dans ce coin-là. Ouais, on est, pour d'un point de vue de toutes les unions circumpolaires, donc les populations inuites ne vivent pas juste au Canada, vivent ailleurs, on est parmi les plus performants là, au Québec.
Tant mieux là, si ça, y a des avancements de ce côté-là.
C'est sûr.
En parlant du Québec aussi, on a remarqué qu'il y avait plus de ORL au Québec en termes de pourcentage de population que dans les autres provinces.
Est-ce
que...
Ouais. Ouais, c'est ça, c'était comme...
On avait été étonnés par ça.
C'était comme 3 pour, je pense, 100 ou 100 000, je sais plus trop.
Puis pourtant, on dit souvent qu'on n'est pas assez.
Ah ouais? Hein?
mais ça se peut pour... Je ne sais pas pourquoi ça pourrait être le cas.
Ouais, il n'y a pas une expertise...
Plus de places de résidence au Québec ou...
On n'est pas si nombreux que ça. C'est sûr qu'on a des populations avec des besoins différents. Puis on a aussi des accès aux soins primaires qui est peut-être pas aussi bon que dans d'autres, dans d'autres provinces. Donc, moi, disons, je vais nettoyer de la cire chez des patients qui pourraient très bien être faits par un médecin de famille, mais souvent, ils n'en ont pas ou ça, ils ont été blessés ou etc. Fait que je ne sais pas si ça joue un rôle. L'autre chose qui joue un rôle, c'est que les ORL prennent leur retraite très tard. Donc, ça, c'est vrai. Donc, si justement, peut-être que notre système québécois est cité d'une telle façon qu'il y a cette façon de transitionner vers une pratique médicale. Puis, une fois qu'ils sont bien installés dans leur pratique médicale, disons les ORL qui ont pris leur retraite du CUSUM, ils travaillent encore, mais dans le West Island, à 2 jours semaine. Donc, c'est un pace qui se maintient pour tant si longtemps qu'ils sont en forme, puis que les choses vont bien, puis ils aiment l'interaction humaine, bien, ça peut se continuer longtemps. Mais quand tu regardes les chiffres absolus, mais ça fait beaucoup. Mais tu regardes à quel degré ils travaillent, bien, ils ne travaillent pas à temps plein, tous ces gens-là. C'est
mais
peut-être
c'est
à
bon
cause
ça
de ça.
D'avoir cette possibilité-là, tu sais, c'est le fun pour justement pour eux qui sont capables de continuer.
Puis je sais pas si d'un point de vue dans d'autres provinces, peut-être qu'il y a
ça se fait moins.
Ou le setup est moins ou quelque chose de ce type-là. Ouais.
Puis vous disiez, c'est ça, que des fois vous faites des choses qui pourraient être faites par quelqu'un de soins primaires, mais c'est ça, j'ai comme l'impression que les connaissances d'ORL est peut-être pas si extensif que ça.
C'est sûr. C'est, on dit ça souvent que, disons, en médecine, on a des cours. C'est pas tout le monde même qui a besoin de faire un stage en ORL. Hein. C'est comme c'est une sous-spécialité chirurgicale. Donc, il va y avoir toute une génération qui va devenir soit médecin de famille ou même peu importe quoi, qui n'ont pas fait d'ORL. Donc, la connaissance clinique est définitivement un peu déficiente. Donc, on est toujours en train de pousser pour que installer, demander que les étudiants viennent plus régulièrement ou que dans le curriculum de médecine de famille, on s'assure que tout le monde vienne faire au moins un mois en ORL. Bon. Parce que c'est tellement omniprésent dans la première ligne que de comprendre qu'est-ce qui se passe par la suite et de comment référer, qu'est-ce qu'il faut référer. Puis, ça, c'est important de l'avoir dans la formation, mais on le fait beaucoup pour les médecins de famille. Donc, les ORL, on donne beaucoup de cours aux généralistes dans leur conférence sur...
Dans la résidence, tu
sais. Pas juste dans la résidence, surtout après.
Okay.
Donc, des gens qui sont déjà en pratique, donc des refreshers, soit, disons, moi, je donne des refreshers sur le vertige, sur la surdité subite. Donc, c'est très clinique. Donc, c'est des gens qui sont déjà en pratique, puis là, on leur donne des trucs de comment... Puis souvent, l'attention est différente une fois qu'on est déjà en pratique versus un résident qui a un cours de 1 heure sur un sujet.
C'est en pratique, tu as vu les patients.
C'est ça.
Aussi,
puis tu as aussi connu un peu, oh shit, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu as peut-être fait un peu de recherche de ton côté. Maintenant
des
questions
en tête,
que le ownership est sur toi, l'attention est différente.
Oui.
Puis le moins de volume aussi de cours, j'imagine, qu'on
c'est
juste
ça.
Une fois de temps
puis
en
pas
temps.
Le stress de d'un examen qui approche, puis tu te dis, ça sera pas à l'examen, je lirai ça plus tard, etc. Donc, là, c'est pour le plaisir de s'améliorer.
Mmh. Et sinon, est-ce que vous avez un conseil à donner à des étudiants qui, comme nous, est à l'étape de possiblement regarder puis choisir ce qu'on veut faire?
Moi, je pense que c'est d'essayer plein de choses. Puis d'arriver à chaque affaire qu'on essaie avec l'idée « maybe this is it
».
De ne pas arriver avec des idées préconçues. Je pense que c'est surtout ça. Puis de s'écouter, de dire « ah, si c'est, même si tu t'es toujours dit que tu allais être un pédiatre puis tu arrives puis it doesn't feel right, it probably isn't right ».
Écouter notre feeling malgré nos idées.
C'est ça, c'est ça.
Moi, je me souviens, genre, ça m'a marqué. Vous nous avez donné un cours à Manuel, vous aviez dit, faut savoir si on est quelqu'un qui aime savoir un peu sur tout ou tout sur quelque chose de précis.
Exact.
Ça m'a tellement fait réfléchir, cette phrase-là, ça m'a marqué.
Puis ça, c'est clé, parce qu'on peut arriver... c'est une question de pace, puis c'est vraiment pas une question d'aimer une pathologie quelconque, de dire, écoute, moi, j'adore le diabète. Peu importe si t'aimes le diabète, après 10 000 patients vus avec le diabète, l'amour de la chose sera peut-être un peu moins intense. Mm. Fait que c'est pas tant de s'axer sur la pathologie, mais sur le flow, puis comment ça vient de chercher. Puis ça, c'est... Moi, je le dis tout le temps à chaque année, hein, je me trouve... Je radote, puis pour vous, c'est nouveau, là. Mais c'est vraiment ça. Parce que si on aime savoir un peu sur tout, bien, dans ce cas-là, la médecine interne, la médecine de famille, parce qu'il faut... Puis il y a tellement de variétés. Mais si on veut savoir... puis on est un peu toc, moi je suis un peu comme ça, j'aime savoir absolument tout, mais ce monde-là ne peut pas être très vaste parce qu'on n'en finira jamais, on va toujours être insatisfait. Fait qu'il faut avoir un tout petit monde dans ce cas-là.
Comme l'oreille.
C'est ça, pas très grand.
Merci beaucoup. Ouais, merci.
Ça, c'est grand plaisir, exactement. Puis merci à vous de l'invitation. Puis je n'ai pas encore la chance de regarder les vidéos de d'autres, mais je suis sûre que c'est des bons insights à avoir.
Merci. Puis aux auditeurs, n'oubliez pas d'aimer nos pages Facebook, Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et parlez-en à vos amis si vous aimez notre podcast. Merci.
Ça fait plaisir.